With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hello, je suis Léa.
Et moi Mathilde.
On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast Salut ça va by Take Care.
Je suis psychologue clinicienne.
Et moi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux.
On revient dans cette saison 2 pour vous poser la question comment ça va
et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Salut ça va by Take Care avec Mathilde qui m'accompagne toujours.
Toujours là.
Et aujourd'hui, on reçoit Roger. Très contente de t'avoir au micro.
Mais moi aussi, très content. En plus, c'est mon premier podcast. Donc
ouais, c'est vrai.
Je suis presque impressionné de vous avoir là. De peut-être répondre à tes questions
qui n'ont jamais répondu. Tu sais pas ce qu'on va te demander. C'est vrai qu'on ne donne pas nos questions à nos invités en avant-première pour garder cette...
On aime la spontanéité.
Voilà, exactement.
La spontanéité. Là, il va y en avoir.
On adore. Alors, justement, Roger, est-ce que tu peux te présenter comme si tu t'adressais à une personne de 5 ans ou de 90 ans, enfin quelqu'un qui n'a pas accès à Internet, tu vois.
Ok.
Qu'est-ce que tu lui dirais?
Ah, c'est marrant parce que je suis venu avec un chauffeur qui m'a posé exactement cette question, donc j'ai pu m'entraîner, celle-ci j'ai de la chance. Alors généralement je me présente comme un entrepreneur qui a une entreprise de coaching et de consulting, qui travaille avec des entrepreneurs un peu partout dans le monde, et qui est papa de 2 enfants, marié maintenant depuis 12-13 ans. Si je rentre un peu plus dans le perso, voilà dans les grandes lignes en une seule phrase. Comment
ouais,
je pourrais me présenter.
C'est pas mal. Alors, coach, ça veut dire beaucoup de choses et en même temps...
Exactement.
Parce qu'il y a, on le sait, il y a tout genre de coach.
Oui. Ouais.
Donc, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus précisément dans la suite. Mais je vais revenir un peu il y a quelques années. T'étais quel genre d'adolescent, toi?
J'étais quel genre d'adolescent? Alors, j'étais un adolescent qui était en même temps très chiant. Je ne respectais aucune règle. C'est-à-dire que toutes les bêtises possibles, inimaginables, je les ai faites. Ça veut dire sécher, ça veut dire mentir possiblement, ça veut dire intercepter les bulletins, ça veut dire toutes les bêtises possibles, inimaginables, en tout cas je les ai faites. J'étais aussi, tout ça pour un peu cacher un peu, je crois que j'étais ultra émotionnel, donc les émotions c'était très très compliqué, donc j'ai vite compris que j'avais un problème avec les émotions et que c'était possiblement une problématique pour moi, donc j'ai tous les moments de liberté que je pouvais prendre, je les prenais à fond, absolument. À fond, tout le temps.
Et du coup, mais t'envisageais quoi pour ta vie d'adulte, pour ta vie professionnelle? Est-ce que t'étais dans une projection? T'avais déjà une idée ou pas du tout? T'étais vraiment en mode one life?
Franchement, je pense que j'avais aucune visibilité sur ce que j'allais devenir dans l'avenir. Je savais que les relations humaines, c'était facile, en fait. J'ai très vite compris comment les gens fonctionnaient. Je pensais, tiens, c'est bizarre, il y a des patterns, il y a des choses qui fonctionnent. J'ai vite compris qu'il y avait un truc avec l'humain. Et en fait, l'humain m'a presque beaucoup plus intéressé que tout le reste. L'école, je répétais souvent à mes parents, j'aime bien l'école, mais j'aime bien la récréation et la cantine.
Ouais.
Tout le reste, je trouvais ça très, très chiant et super emmerdant, mais j'avais pas de véritable vision de où est-ce que je voulais venir, mais je savais que j'avais un truc avec l'humain. Je savais pas quoi, mais je savais qu'il y avait un truc avec
déjà,
les humains.
Quand t'es hyper jeune comme ça, tu vois, en primaire, de savoir, tu vois, ce qui t'accroche particulièrement. Je sais que t'as des personnes comme ça. Moi, par exemple, j'ai été déléguée de classe toute ma scolarité, tu vois. C'était vraiment un truc, les responsabilités.
T'avais déjà ce leadership
ouais, je sais pas, mais ça me plaisait. Et je pense qu'en fait, on valorise pas de ouf, tu vois, dans le système scolaire actuel, l'individualité, dans le sens, ce qui déjà te différencie et ce qui fait, en final, ta puissance. Ces différences-là, t'as des gens qui sont hyper bons dans une matière, et c'est vrai que comme on veut un peu aplatir le côté un peu socle commun, tu vois, tout le monde avec les mêmes bases, ben on n'explore pas particulièrement, contrairement à d'autres systèmes, alors qu'ils sont pointés un peu genre individualistes, genre le système américain ou même anglais, où on va vachement pousser les activités extrascolaires, tu vois, les sportifs, déjà t'as la capacité d'exister à travers quelque chose qui te caractérise.
Oui, puis le système scolaire français, c'est très... c'est les maths, le français, la géographie, alors que franchement il y a tellement de choses, quand on voit les auto-entrepreneurs d'aujourd'hui, c'est rarement à l'école que tu apprends à devenir auto-entrepreneur quand même,
oui.
Et il y a même, quand on prend un peu de recul, on voit même qu'il y a les plus successful sont pas forcément ceux qui ont le mieux réussi à l'école en fait. Ça qui est, ça qui est drôle en fait, c'est que tu te rends compte que bah, toutes ces règles qui sont des règles intéressantes en tout cas dans une première intention, bah, sont pas les règles qui font réussir les entrepreneurs d'aujourd'hui et presque même à l'inverse, parce que t'as pas réussi dans ce système, que finalement l'autre système dans lequel tu vas, tu vois de la valeur, tu vois des choses intéressantes, t'as des repères, tu dis tiens, c'est pas comme l'école, ah tiens justement ça me fait penser à quelque chose qui identitairement parlant, je m'y retrouve et d'un seul coup ça devient intéressant d'y aller quoi.
Ouais.
Alors que l'école, si tu t'y reconnais pas, c'est
mais ce qui prouve bien que ta valeur elle réside pas forcément en tout cas dans l'environnement dans lequel tu te construis et le système, tu parlais de système, de le système dans lequel t'évolues, parfois juste l'environnement change et du coup t'es une autre personne parce que dans un contexte complètement différent, bah, t'évolues complètement différemment.
Ouais. T'as la capacité de t'épanouir, ouais. Et toi, justement, t'as quitté un système assez commun, c'est le salariat.
Ouais, pendant des années.
Ouais, hyper confort, bien payé, pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Roger ? Est-ce que tu peux nous raconter cette période ?
Alors, elle est géniale, cette période, parce qu'en fait, pour de vrai, j'ai beaucoup d'amour pour le salariat. Parce que pour de vrai, quand je suis rentré dans le salariat, pour moi, d'où je partais, c'était le best moment ever de ma life. C'est grosso modo, j'ai un CDI, je suis dans une compagnie aérienne après avoir des années de galère sur des trucs un peu compliqués ou des trucs un peu génial que j'ai pu vivre dans d'autres délires. Mais je suis dans une compagnie aérienne, genre stabilité, en tout cas en apparence, qui s'apparente à la stabilité. Ça se passe bien. Bon, j'habite à Lyon, ma compagnie aérienne est sur Paris, donc je fais aller-retour. Il y a quand même ce côté un petit peu mouvementé que je trouve cool. Ça se passe giga bien. Genre, pour la première fois de ma vie, je me dis putain, ça y est, je suis stable. Genre, c'est la stabilité. Je rencontre quasiment ma femme une à deux ans avant que je sois studio. Donc elle participe avec moi avec cette aventure, donc ça devient giga, giga, giga intéressant. Bah, tous les avantages de la compagnie, d'une compagnie aérienne française qui va avec, donc un salaire cool, des voyages qu'on peut faire. Donc d'un seul coup, je me dis, et là, au bout de 7-8 ans, bon, alors 6 ans, dans l'avion, je me pose une question qui est, et si l'argent n'était plus un problème, qu'est-ce que je ferais de ma vie ? Question, alors que tout allait bien, et je me dis, mais qu'est-ce que je ferais en fait si je devais pas aller me lever à 4h du matin pour faire un vol direction Tel Aviv ou qu'est-ce que je ferais en fait de mes journées. Et rapidement, je trouve ma réponse qui est en fait, je discuterais avec les gens en fait. Ce serait un truc où je parlerais, je serais presque même payé, je serais presque même prêt à payer pour discuter avec les gens. Et quand j'ai dit ok, d'accord, j'ai réfléchi à ça, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire qui ressemble à discuter avec des gens et que je trouve cool. J'ai commencé à chercher, je vois un truc de coach, je connaissais mais rien du tout à cet univers. Je connais tous les mecs qu'on connaît aujourd'hui, les Tony Robbins, les grands. Ouais. Je les ai découverts, je crois, un an et demi plus tard, après avoir commencé la formation de coach. Et bah, dès que j'ai eu ma réponse, j'ai fait vas-y, je vais me former au coaching. Je vais voir ce que ça donne. Ma femme m'a regardé un peu en mode genre, mais t'es en train de. C'est quoi ton délire ? Genre, c'est quoi ton problème là en fait ? Genre, il y a tout qui va bien là, on est d'accord. Genre, on est ok. Il y a tout. Genre, et toi, tu veux faire une formation de coach. Et je lui avais raconté que c'était un peu pour ce qui était vrai. Pour peut-être monter en compétence dans la compagnie dans laquelle j'étais, parce qu'il y avait des postes un peu managérial qui étaient intéressants et que je trouvais cool. Et plus ça allait, plus je me dis, bah, en fait, c'est pas du managérial, c'est je vais devoir donner des ordres, je vais devoir manager des ordres qu'on va me donner au studio avec qui je vais bosser. Et en fait, j'ai pas trouvé ça très cool. Et de fil en aiguille, je me suis pris au jeu du coaching, de l'accompagnement, et j'ai dit, bah, chérie, j'arrête. Et là, ça a été. Ça a été. On a un appart, on a un crédit, on a des enfants, tu veux tout arrêter là. Et ça a commencé là, c'est à ce moment-là que ça a commencé à partir de l'autre côté, et sans aucune certitude de réussir, sans aucune certitude que ça allait bien se passer, sans aucune certitude...
L'entrepreneuriat quoi ?
Ouais.
Est-ce que tu as vraiment des certitudes quand tu es entrepreneur ?
La seule certitude, c'est que la question qu'elle m'a posée, que je dis très souvent, c'est elle m'a posé la question, est-ce que t'es sûr de toi ? Et la seule certitude que j'avais, c'était de lui dire que non, j'en avais aucune en fait.
Ouais.
Et c'est la seule chose que je lui ai dit. Je lui ai dit en fait, non, en fait, je ne peux pas te promettre que je vais réussir. Par contre, la seule chose que je peux te promettre, c'est que je vais tout faire pour y arriver.
Mm.
Et c'est la seule chose que je lui ai dit. Et elle m'a regardé en disant, bon, bah, de toute façon.
Mais moi, ça me fait vraiment penser à. On reçoit souvent des messages je ne comprends pas, j'ai tout pour être heureux, j'ai tout pour être heureuse. Enfin, je veux dire, j'ai une belle maison. Enfin, ma situation amoureuse est plutôt stable. Voilà, j'ai un métier stable, plutôt bien payé, mais je ne me sens pas épanouie. Et en fait, et c'est ce que j'entends, finalement, tu as un peu vécu. C'est-à-dire que a priori, sur l'affiche, bon, tout paraissait remplir les critères de ce qu'on appelle une vie épanouie. Ouais. Et pourtant, bah, t'étais pas profondément aligné avec toi, il y avait quelque chose qui te manquait. Et c'est souvent ce qu'on repère dans ce genre de questions-là, c'est que même si, a priori, tu réponds à des critères de vie qu'on t'impose, entre guillemets, depuis que t'es petit, hein, tu feras des études, tu feras telle chose, tel métier, le mieux c'est le CDI, etc. Ouais. Bah, finalement, des fois, la clé, c'est vraiment de se recentrer sur qu'est-ce que j'aime, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi qui... Vers quoi, qu'est-ce qui fait que je suis carrément alignée avec moi. Et en fait, toi, ta réponse, tu l'avais déjà quand t'étais petit, c'est-à-dire l'humain. Ouais, en fait, mais du coup, c'est revenu à toi quand tu t'es posé cette question-là. Effectivement, si j'avais pas de contraintes, et demain, si je devais choisir un idéal, qu'est-ce que je ferais de ma vie, quoi.
Ouais, mais s'autoriser à rêver, tu vois, je pense que c'est hyper important. Le fait de se dire, ok, si je lève toutes les barrières des oui, mais, des si...
Si t'anticipes plus.
Ouais, si t'anticipes plus, c'est ça. Et en fait, quand t'es engagé dans un train de vie avec des responsabilités, des enfants, etc., t'es souvent vu comme complètement irresponsable. Ce risque, en fait. Et pourtant, bah, tu peux pas entreprendre sans risque, parce que c'est le principe même de sortir de ton cadre, en fait. Hein. Et là, c'est totalement ce que t'as fait. Et justement, au niveau des réactions autour de toi, est-ce que t'étais soutenue ? Alors, il y a ta femme, mais tes amis, ton cercle social, je sais pas, ta famille, comment ça a été vécu ?
C'est plutôt une bonne question, mais pour mettre un peu de contexte, cette aventure avec la compagnie aérienne, moi c'était mon rêve. En fait, pour de vrai, à la base, j'aurais jamais imaginé avoir cette situation. Pour moi, elle était inespérée d'avoir un truc stable, une femme, des enfants, un appart, un salaire, genre plus poser trop de questions. C'était déjà un truc complètement what the fuck. Genre, à aucun moment dans ma vie, je me suis dit, ça allait être stable comme ça a été. Donc ça, c'est aussi intéressant de le dire, c'est que la première étape de cette étape, elle a été, pour moi, c'était genre, cool, ça y est, ça, je suis au moins arrivé à ça. Ce qui aurait pu être le cas de pas mal de personnes, sauf que, à moi, je me suis dit, tiens, mais est-ce que je peux aller plus loin, en fait ? C'est vraiment la question que je me suis posée. Est-ce que je peux tenter autre chose ? Et le fait de passer à ça, ouais, je suis passé dans ce milieu-là. Et pour répondre à la question, non. Alors, en fait, il n'y a absolument personne qui a compris ce 180. Que passer de stew, de chef de cabine dans une compagnie aérienne, à coacher des sportifs de haut niveau, coacher des entrepreneurs, c'était en mode genre, t'es bizarre. Genre, et puis, il y avait tout le truc des gourous, des trucs de dev perso à ce c'est moment-là, au même moment. Non, en fait, y a la plupart des gens m'ont regardé en mode t'es un chelou, en fait. Genre, t'es bizarre, toi, t'es qui ? Qu'est-ce que tu fais ? Genre,
tu vivais comment, ça ?
Au début, franchement, je l'ai pas très bien vécu, dans le sens où je sentais que les gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. J'y suis quand même allé, même mes frères. Alors, mes frères, moi, c'est en mode genre, mais t'es un peu bizarre quand même, parce que tu vois à peu près d'où on vient, mec, il y a tout qui va bien dans ta vie, genre, et toi, tu vas encore te rajouter un truc compliqué à faire. C'était en mode genre, putain, ils ne voyaient pas ce que moi je voyais. Ma femme, Nara, j'ai énormément de chance qu'elle me laisse faire mes trucs avec beaucoup, beaucoup d'amour, mais avec beaucoup d'observation aussi, en mode, bon, ce serait quand même mieux si ça marchait. Et un peu genre, mais t'es bizarre avec tes vidéos et tout. Donc, il y a eu quand même un énorme moment de surprise globale. Et les gens qui m'ont soutenu, je me suis amusé à les appeler cet été. Ils ne sont pas nombreux. Et aussi simple soit-il, il y en a trois. Il y en a surtout un qui s'appelle Mathias, qui lui, il comprenait absolument rien. C'était mon pote, mon meilleur pote, le parrain de ma fille aujourd'hui. Il comprenait rien de ce que je faisais. Mais rien. Genre, pour lui, c'était un... Mais rien du tout de ce que je faisais. Par contre, bah, il est venu avec moi à des séminaires. Il m'a fait dormir chez lui quand j'étais à Paris pendant des semaines entières. Il m'a amené quand il fallait m'amener. Il m'a fait un cadeau dans un beau resto quand j'ai réussi ma formation de coach. Mais il y comprenait rien du tout. Mais c'est le seul, si je l'ai en tête là maintenant, en tout cas, je pense qu'il y en a d'autres, mais le seul que j'ai véritablement en tête, c'est Mathias qui comprenait rien.
Il n'était pas entrepreneur.
Mais il n'est pas. Alors à l'origine, non. Un peu plus aujourd'hui. Mais il m'a toujours dit, mec, je sais que tu vas y arriver. Je comprends rien de ce que tu fais, mais je sais que tu vas y arriver. Et je me suis amusé à l'appeler, et d'autres personnes qui m'ont aidé, qui m'ont hébergé, qui ont fait des trucs. Mais non, la plupart des gens, franchement, honnêtement, au début, personne.
Comment t'as fait pour trouver les ressources en toi, du coup ? Parce que bon, alors, j'entends que t'avais quand même des ressources externes. Tu parles de Mathias, tu parles de Nara.
Ouais, ma femme.
Nara, ta femme, qui ont été soutenants là-dedans. Mais du coup, c'était, oui, un sacré virage... à 180 degrés, comme tu dis. Comment t'as fait pour garder ton cap et te dire que t'étais quand même sur la bonne voie, vu que t'étais quand même pas sûr de toi quand même au départ. Qu'est-ce qui a fait que t'as continué et t'as continué dans cette voie-là malgré tout ?
Je pense que j'ai une particularité dans mon système de fonctionnement à me focaliser sur un seul truc et de voir toutes les étapes qu'il y a autour comme un moyen de savoir si je suis dans la bonne direction. Quand je suis arrivé dans le milieu du... Quand j'ai commencé à faire la formation de coach, ma véritable intention, c'était de savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce que le coaching fonctionne, est-ce que l'accompagnement, ça fonctionne. Parce que moi, j'y connaissais absolument rien. Et quand je suis arrivé dans la... Je me rappelle être arrivé dans la salle de formation, il y avait une 60aine de personnes et je me suis dit... Qu'est-ce que je fous là? Genre, je me suis dit, mais je sais pas du tout mon délire là. Genre, il y a beaucoup de thérapeutes, beaucoup de coachs, il y a tout le milieu du coaching qui est quand même un milieu avec où, voilà, il y a des gens qui ont plus besoin d'un coach que de devenir coach. et moi, j'étais de là-dedans en me disant, mais waouh, je sais pas du tout. Franchement, le premier jour, j'ai failli me barrer, honnêtement. Je me suis fait des potes, Franck et Faudet, qui sont restés potes avec moi pendant toute l'année. Mais au début, je voulais juste savoir si le coaching fonctionnait. Donc, je suis resté focalisé sur est-ce que le coaching, est-ce que le questionnement, est-ce que le fait de travailler sur soi, est-ce que c'est véritablement game changer ou pas ?
C'est ta curiosité, en fait, qui t'a...
Ouais. Ouais, ouais, je pense.
Qui t'a fait rester là-dedans.
Ouais, alors que franchement, au début, je voulais pas. J'ai appelé ma femme en disant, putain, je suis dans un truc de chelou.
C'est pas toi qui m'a dit que vous deviez vous lever et applaudir les personnes qui... C'est pas toi qui m'a
alors,
dit
alors,
ça.
C'est, alors, c'est, on devait pas se lever, mais par contre, quand le formateur est rentré dans la salle et que les gens l'ont applaudi en mode, il venait de faire, c'était Rock Voisine de l'époque, tu vois, où c'était, moi, je dis Rock Voisine, j'étais en mode... Mais non, mais je vais
on
pas.
On te paye.
Je vais pas t'applaudir, moi. Je te le dis tout de suite. Tu vas me donner le process, les formations, et à la fin, si je trouve vraiment ça cool, on en discutera. Mais là, pour le coup, moi, j'étais pas dans le côté. Je vais pas t'idolâtrer. Ouais. Je suis pas fan. Je tiens bien ce que tu fais, sinon
c'était
je serais
pas
là.
Le côté gourou.
Ouais, le côté. Non, j'étais pas. Et je suis mal à l'aise même avec ça. Je pense que je suis un peu mal à l'aise avec
ça. Et pourtant, tu vois, le coaching a vachement, je trouve, cette image là. Et c'est une réalité, il y a vraiment dans le milieu du coaching il y a vraiment tout et n'importe quoi, parce que je pense que c'est pas forcément hyper encadré, tu vois, et c'est hyper important je trouve de défendre aussi la façon dont toi tu bosses et la façon dont t'es rentré dans ce milieu là et tout. Ça fait du bien en fait d'entendre ce discours, parce que tu vois, il y a vraiment cette image où justement on part dans un truc avec des recettes magiques, des baguettes magiques, et t'as l'impression que tu vas rencontrer voilà des personnes qui vont, tu vois, réellement changer ta vie, et toi tu te défends de ouf ça, quoi, le fait de ne pas vendre de recettes miracles. Et comment t'as réussi à te positionner, tu vois, par rapport à ce truc qui est hyper fort, et dire mais alors moi c'est hors de question que je fasse du bullshit et que je vende du bullshit, quoi.
Ça a été extrêmement dur au début, parce qu'en fait je me suis formé de façon très classique dans le coaching, et puis après j'ai regardé est-ce qu'il y a des gens dans le coaching qui en vivent, et en tout cas est-ce qu'il y a une entreprise possible à faire là-dessus, parce que la passion c'est bien, mais finalement est-ce que je peux devenir entrepreneur grâce à ça. Et quand je suis allé sur le marché, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui gagnaient de l'argent n'étaient pas coach. En tout cas, à un moment où moi j'ai commencé, ils avaient des skills de coach, mais quand tu regardais un peu en termes de théorie, de pratique, ils revendiquaient même le fait de ne pas être coach, et finalement c'était ces gens-là qui gagnaient de l'argent. Et moi je me suis dit, en fait, soit je reste dans le milieu du coaching qui prône le fait qu'on aide les gens, mais que les résultats que tu as avec les gens ne sont pas tes coachs, ce qui ne sont pas tes résultats, ce qui crée une schizophrénie dans le monde du coaching, c'est tu aides quelqu'un à obtenir des résultats, mais en formation on te dit les résultats de ton client ne sont pas tes résultats. T'es en mode alors en fait je sers à quoi en fait, genre.
Ouais.
Et c'est un peu bizarre au début, si tu dis en fait j'aide quelqu'un mais je peux pas m'approprier, mais c'est grâce à un peu à ce qu'on fait, mais faut pas que je m'identifie à ça. Il y a un truc bizarre avec le monde du coaching un peu, en tout cas quand moi je l'ai vécu, quand moi je l'interprète.
Mais qui est très, enfin qui est un peu imprégné de la psychanalyse là pour le coup, de ce côté-là un peu tu ne dois pas attendre de résultats,
c'est
tu...
ça.
Et en fait si à un moment donné t'as quelqu'un qui vient te voir, il est dans la merde, enfin il vient te voir parce qu'il est dans la merde.
Ouais. Mais même toi en tant que psy, enfin j'imagine que t'es contente quand tu vois qu'il y a des patients qui avancent et qui ont des résultats dans leur vie, même si tu te dis pas
les aides à améliorer leur qualité de vie, à retrouver une vie normale. Ouais. quand il y a des psychopathologies, etc. Mais c'est normal, enfin moi ça me...
Ouais, mais je pense qu'il y a ce truc là en fait du résultat qui peut être mal vu, tu vois, c'est quand ça concerne l'humain. En fait, t'as l'impression que y a un côté limite, t'es capitaliste de l'humain, alors que pas du tout. En fait, c'est juste que tu crées une relation, tu vois. Je veux dire, toute relation te change. Je veux dire, que ce soit une relation de coacher, coacheur, coach, enfin, que ce soit dans une relation de couple, une relation. Moi, je déteste les gens qui disent ah non, mais moi, dans mes relations, je n'ai pas d'attente. Mais c'est faux.
Ouais, c'est faux déjà.
Mais moi, je ne peux jamais dire ça. Tout le monde a des attentes dans une relation, et même dans une relation de coaching.
Le jour où il y a plus d'attente dans une relation, il n'y a plus de relation en fait.
Voilà. Ben ouais.
Ça s'arrête.
on dit vague, mais c'est voilà, c'est non, c'est vrai que ce milieu est intéressant. Donc tu rentres là-dedans et tu te dis ouais, bon, what the fuck, moi je veux des résultats.
Je veux savoir si ça fonctionne. Donc je coach énormément de personnes. Et je vois que ça fonctionne, parce qu'il y a le vieux truc de si c'est gratuit, ça n'a pas de valeur et les gens n'ont pas de résultats. Je voulais savoir si c'était vrai. Il ne faut pas coacher ses potes. J'ai coaché mes potes.
Ouais.
En fait, tout ce qu'on m'a dit, il ne faut pas faire et ce n'est pas bien. Et j'ai fait, avant que tu me dises, je l'entends, mais je veux au moins savoir si c'est vrai.
C'est ces règles-là qui...
Ouais, c'est comme à l'école, genre tu dois pas faire ça, bon bah tu peux pas sécher. Bon, on va quand même sécher, voir s'il y a moins de sécher et voir comment ça se passe. Et je voulais vraiment savoir. Je voulais vraiment expérimenter, voir si ça fonctionnait ou pas. Donc oui, il y a des trucs qu'il ne faut pas trop faire. En tout cas, où tu peux coacher ses potes, mais ça, c'est limite. Tu peux coacher des gens que tu aimes bien, mais ça limite. Tout a une limite. Donc j'ai découvert la limite en le faisant. Et donc, pour revenir sur ça, oui, effectivement, je me suis fait coacher par des gens qui n'étaient pas coachs. Voilà, c'est le truc que j'ai fait. J'ai dit, ah tiens, vas-y, bah, on va aller voir. Hein. Si ces gens-là, ils y arrivent et que dans le milieu du coaching aujourd'hui, il ne faut pas mentir. Là, 99%, allez, je ne suis pas sympa. Allez, 90% des gens qui sont coachs ne gagnent pas leur vie. En tout cas, c'est juste une compétence, c'est des skills. C'est des trucs, pour moi, les compétences de coach sont des skills ou de psycho, sont des skills, les meilleurs skills ever, parce que tu peux les utiliser dans tous les domaines, ce qu'on appelle le mindset. C'est que ton état d'esprit par rapport à l'expérience que tu vas vivre dans n'importe quel domaine avec des skills de coach, tu peux déjà mieux les appréhender. Ne serait-ce que ça, c'est giga intéressant. Mais n'empêche que sur le marché, pour devenir entrepreneur, coach, c'est une catastrophe. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, je me dis, qui fonctionne sur le sujet ? Donc, je me suis fait coacher par des gens qui n'étaient pas coach. Et j'ai fait, ah, ok, donc ça marche comme ça. Donc, j'ai découvert ce monde-là, le monde du coaching, de l'entrepreneuriat, un peu moins coaching, mais plus entrepreneur, ouais, plus consultant business, presque. Ouais. Ouais. Et j'ai fait, ok, donc si je rajoute à ça des skills de coach, il y a moyen que j'ai des meilleurs résultats que ceux qui ne sont pas coach. Donc j'ai créé cette croyance de bah, si je rajoute ça, plus ça, plus ça, plus ça, et que j'expérimente, il y a moyen de devenir meilleur. Parce qu'ils n'ont pas ce que moi j'ai.
C'est testing à fond. Ouais.
J'allais dire, ouais. Mais c'est vraiment la posture du chercheur qui a des hypothèses et qui va les tester. Vas-y.
Ouais.
Mais en fait, c'est hyper important, je crois, dans la vie en général. Tu vois, là, on l'applique à ton parcours parce que voilà, t'es dans l'entrepreneuriat, c'est ta réalité et tout. Mais je pense que vraiment. En général, le fait de tester ce qui, d'apparence, tu vois, peut te faire peur ou même pas forcément peur, mais où tu te dis est-ce que c'est possible ? Et en fait, tu passes plus de temps à te questionner sur le fait que, et à anticiper sur le fait est-ce que ça va être possible plutôt que de te dire bah, j'y vais et puis je verrai bien.
Puis tester ses croyances aussi, parfois, c'est ça qui permet de te faire changer, enfin, d'aller vers du changement. T'as une croyance, bah, teste-la, voici ce que tu penses, ça va se passer. Voici ce que tu penses, ça va se produire et on verra, en fait.
Ouais, et adapte. Non, mais c'est vrai. C'est beau tout ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, aujourd'hui ? Je sais que tu donnes pas de conseils, mais c'est une question piège.
Un peu quand même, de temps en temps.
À quelqu'un qui veut, tu vois, sauter le pas, changer complètement de vie, qui est en mode, bah, justement, je sens qu'il y a quelque chose à aller chercher ailleurs. Par quoi je commence ? Dans quel état d'esprit je dois être, tu vois ? Qu'est-ce que tu dis ?
C'est une question en plus qu'on pose relativement souvent, en fait. Bon, beaucoup sur Insta ou quand je discute avec les gens. Pour moi, c'est fais les deux choses en même temps. Fais ce que tu es en train de faire, continue ce que tu es en train de faire et essaye de faire un autre truc et tu vas véritablement voir s'il y a de la valeur pour toi en fait. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'étais en même temps coach, en même temps formation de coach, en même temps en même temps un peu à droite à gauche. Et en fait, si véritablement c'est important pour toi, de toute façon, naturellement, tu vas très vite le savoir parce que tu vas, si ça n'a pas de valeur, tu vas t'arrêter.
Ouais.
Tu ne vas pas vers quelque chose qui n'a aucun intérêt pour toi. Et en plus de ça, ça va te permettre... savoir que si c'est véritablement intéressant pour toi, tu vas trouver l'énergie nécessaire pour que ça fonctionne. Et tu vas trouver le temps et tu vas essayer de trouver des endroits et tu vas créer des liens et tu vas vouloir grandir, tu vas vouloir devenir meilleur sur cet aspect. Donc pour moi, le fait de faire les deux en même temps, au lieu de brûler tous les bateaux, qui est un truc beaucoup de... Genre, faut tout arrêter, et si c'est dans la merde...
Ouais, toi, t'es pas du tout là-dedans. Ouais.
Moi, je pense que ton attention, elle est dictée, c'est les neurosciences, hein, parce qu'il y a de la valeur en fait. Ton attention, elle est captée par rapport à ce qu'il y a de la valeur pour toi. Donc ça veut dire que, dans un premier temps, tu dois découvrir ce qu'il y a de la valeur pour toi. Donc si c'est juste une intention et que tu le découvres pas, bah, tu vas te foutre dans une situation de merde pour rien. Et ta situation d'avant aura énormément de valeur. Donc tu vas possiblement créer un traumatisme de j'ai tout quitté pour rien, ça fonctionne pas. Et tu vas renforcer un état ou une identité de toi de il faut pas prendre de risques. Prendre le risque, c'est tenter deux choses en même temps, déjà dans un premier temps, et de voir si ça a de la valeur pour toi. Et si ça a de la valeur, naturellement, En tout cas, tu vas pouvoir créer plus de contexte pour y aller, mais tu vas véritablement aller vers ça. Donc moi, j'en dis, faites les deux en même temps et regardez comment ça
fonctionne. Mais il y a un truc important que tu dis là aussi, c'est que par contre, engage une action en fait. Mm. C'est que y a des gens qui veulent changer de vie, qui veulent, mais qui restent dans la rumination de faudrait que je change, je suis pas bien dans ce que je fais, faudrait que je change, mais ça reste des ruminations. Il y a pas d'actions qui sont mises en place. Et en fait, une action, quel que soit le risque qu'il y a derrière, que tu te plantes ou que tu ne te plantes pas, elle te fait avancer dans tes réflexions. C'est-à-dire que de toute façon, quelle qu'en soit la finalité de ton action, à la fin de ton action, tu sais mieux ce que tu veux, ce que tu veux pas, si c'est ok, si c'est pas ok. Et effectivement, tu peux cumuler, comme tu dis, et les deux pour avoir ce socle-là aussi. Enfin, pour avoir l'autorisation de revenir à ce que tu connais déjà. Mmh. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut engager une action vers ce que tu as envie d'avoir.
Rien ne change.
Même
si
une petite action. Non, mais même un peu. Une toute petite chose, enfin, ce qu'on appelle une toute petite chose, pas forcément petit, mais ce que je veux dire. Même quelque chose qui ne t'implique pas énormément ou qui ne t'engage pas énormément, mais qui va te permettre d'en savoir plus
sur toi-même, sur
toi.
Ouais, je pense qu'il y a toute une partie de connaissance de soi qu'on n'apprend jamais, en fait. Tu te poses rarement, tu vois, entre toi et toi-même, et dans le dev perso, hein, tu vas dire, ouais, les trucs d'introspection et tout, donc t'as l'impression que tu vas devoir aller te fouiller, tu vois, spirituellement. Mais en fait, il y a des trucs hyper simples, juste de connaissances. Comme quand tu t'apprends à connaître un pote ou une nouvelle relation, et bien en fait, cet exercice peut être appliqué à soi-même.
Ouais, et je trouve intéressant, c'est qu'il y a un potentiel qui est revendiqué, en fait. On est dans un truc aujourd'hui où on revendique le potentiel, où on revendique les choses qu'on veut créer. Ce qui est valorisé, c'est les actions. Et en fait, c'est la plupart du temps, c'est les gens revendiquent. Il y a le potentiel revendiqué et il y a le potentiel revendiqué qu'on a réussi à mettre en action. Ouais. Et on a réussi à avoir une amélioration et un feedback par rapport à ça. Et je pense que la problématique, elle est pas trop dans le potentiel revendiqué, elle est dans la cohérence du potentiel revendiqué et les actions qu'on peut mettre en place.
Ouais,
et c'est ça le problème, c'est qu'on... On a un potentiel illimité, Tony Robbins, si nous écoute. On a un potentiel illimité, ça c'est sûr. Mais ce potentiel illimité aussi peut être vu comme plus ça grandit, plus la marche pour passer à l'action, elle a l'air d'être compliquée à prendre. Et finalement, bah, ouais, j'ai un potentiel de ouf, mais si je ne sais pas passer à l'action, le potentiel sert strictement à rien. Et ça, c'est un truc en disant, bah, écoute, hey, t'as du potentiel, t'inquiète. Commence déjà à faire les deux en même temps. Ouais. Et ensuite, tu verras si c'est possible.
On va parler de la résilience. Mm-hmm. Pour moi, tu es quelqu'un de résilient. Peut-être parce que je te connais un peu plus personnellement, du moins. En tout cas, ton parcours. Tu as eu un parcours quand même mouvement.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Et notamment, tu vois, ton enfance, et je pense que c'est ce qui fait que tu nous disais tout à l'heure que l'adolescence a été un peu à 100 à l'heure avec de l'adrénaline et l'envie de liberté. Comment est-ce que tu as réussi à être résilient aujourd'hui? Est-ce que tu te considères comme résilient? Parce que je te porte ce mot-là, mais peut-être que pour toi, ça incarne rien. Comment t'es sorti peut-être de moments compliqués et t'en es là où t'es aujourd'hui, tu vois, au niveau de ton état d'esprit?
Est-ce que je suis quelqu'un de résilient? Pendant des années, je n'ai pas connu ce mot-là. Je l'ai connu en étant dans le milieu de l'accompagnement, du coaching. Et avec tout ce que ça comporte de nouvelles connaissances. Je pense que j'ai beaucoup de chance. C'est que je suis... Par mon parcours, par ce que j'ai vécu en termes de passé, j'ai pas eu d'autre choix. En tout cas, j'ai eu la chance d'aller vers le truc de ce qu'on appelle la résilience naturellement. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, encore une fois, j'ai des contraintes, c'est compliqué, mais je vais décider de voir les choses autrement. Déjà tout petit, et c'est ça que je me dis que j'ai énormément de chance, c'est que j'ai décidé, et je me rappelle de ce que je disais quand j'étais petit, je pensais que j'étais chanceux en fait. J'ai toujours pensé que j'étais un giga chanceux. Genre
tu peux nous mettre un peu de contexte ou pas?
Très compliqué. Un père avec une vision de l'amour qui joue avec des violences physiques, morales individuelles, morales groupées avec. Dès qu'il pouvait, en tout cas, humilier rapidement, il y avait vite des humiliations publiques, privées, coups. C'était très compliqué, très 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 compliqué avec mes trois frères. Ma mère, dont je ne parle très très peu, qui a aussi joué un rôle dans la première partie, qui était un rôle quand même de confidente et puis qui s'est avéré être le rôle d'après, parce que mon père est décédé quand j'avais 18 ans, qui s'avérait très compliqué, parce qu'en fait j'ai découvert un visage de ma mère que je ne connaissais pas, et ça n'a pas été simple non plus. Et en fait, quand j'étais petit, dans ce contexte un peu mouvementé, alors ce qui est très bizarre, c'est que quand je raconte ma vie, pour donner un peu de contexte, j'ai très peur pendant des années de la raconter, parce qu'il m'est arrivé tellement de trucs quand j'ai pris un peu de recul, que même moi aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, je me dis, c'est pas possible d'avoir vécu tout ça, en fait. Des fois, j'en parle souvent avec ma femme, avec des potes, avec mon pote Johan, qui me dit, mais mec, mais genre, tu te rends pas compte, en fait. Et pour de vrai, je pense que je m'en rends pas compte. Il y a beaucoup de moments où je me dis, mais t'as pas pu vivre tout ça, en fait. C'est dans une seule personne, je trouve ça ouf d'avoir vécu absolument tout ça. Et moi, je prends un peu de recul, et même en vous racontant maintenant, je me dis, putain, mais il y a ça. Et je pourrais en raconter énormément. Mais pour donner un peu de contexte global, il y a eu les violences familiales, le contexte familial ultra compliqué, c'était vraiment très dur. Scolairement parlant, j'étais en échec scolaire, je me suis mangé un acné qui m'a recouvert le corps de boutons partout, je pouvais pas prendre de douche, j'ai pas pu me mettre en torse nu pendant 7 à 8 ans, je pouvais pas aller à la piscine, genre c'était horrible, je me faisais insulter à l'école, le harcèlement scolaire, genre j'ai tout ça en 10 ans. Donc c'était ultra compliqué, et pour de vrai, quand c'est passé, j'avais en tête que j'étais chanceux. Dans la tête, je me dis, putain, j'ai quand même, en fait, je voyais toujours l'opportunité dans ce truc-là, en fait. Je voyais toujours ce truc en me disant, là je peux faire ça, là je peux faire ci, là je peux aller là. Je pouvais créer quelque chose, en fait. Et en fait, moi je suis resté focalisé sur ce que je pouvais créer, c'était compliqué, j'en ai chié, pour de vrai j'en ai vraiment chié. Mais j'ai toujours focalisé sur qu'est-ce que je pouvais faire dans cette situation. Et il y a un facteur non négligeable qui est arrivé, un peu par hasard, qui s'appelle le breakdance. Et j'ai fait du breakdance, et j'ai eu la chance d'être reconnu par les gens qui étaient autour de moi, qui me cassaient les couilles, qui m'insultaient, qui me faisaient la misère quand j'étais au collège, par exemple. Et dans ce coup, j'ai été reconnu un peu avec la danse comme étant... et là, je me suis engouffré dans cette brèche de la danse qui m'a, franchement, honnêtement, j'en parle jamais, mais qui a été un facteur déterminant dans ma construction, que j'étais pas à l'aise avec mon corps, donc finalement je me trouve dans la danse, le truc c'est ton corps, en fait, concrètement. Oui. Et encore une fois, genre l'opportunité, boum, j'ai fait, allez, on va tester, on y va. Donc le contexte a été ultra 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 chaud. Ultra ultra chaud. Donc le facteur de résilience, pour moi, je pense que j'ai eu de la chance que je me suis accroché à ça sans savoir ce que c'était, en disant vas-y, c'est bon, de toute façon c'est compliqué, donc l'école c'est compliqué, tes parents c'est compliqué, quand tu rentres chez toi c'est compliqué, quand tu vas chez toi c'est compliqué, quand tu vas à l'école c'est compliqué, parce que tu croises les gens qui vont t'insulter, quand tu vas être genre c'était tout le temps compliqué, quoi, genre c'était constamment compliqué. Et j'en dis pas plus, mais et ça a continué pendant des années et des années sur d'autres sujets comme ça. Donc je me suis accroché au fait que j'avais de la chance, et mes copines et mes potes, je leur disais, moi je pense que je suis un chanceux, en fait. Ils me disaient, mais tu te rends compte de ce que tu dis, genre tu peux pas être chanceux là, c'est pas possible de... Alors c'est cool d'y penser, mais il y a des gens qui ont leurs parents qui divorcent et qui sont anéantis, et toi t'es à fois mille et tu penses que t'es chanceux, quoi.
Je pense qu'il y a une part d'inexpliqué, dans le sens où il y a un tempérament, il y a, tu vois, un état d'esprit, puis c'était peut-être aussi une forme de protection.
C'est bien pour ça qu'on peut jamais dire tu vis ça aujourd'hui et t'es comme ça aujourd'hui parce qu'il s'est passé tel événement ou tel événement. Ouais. C'est ce qu'on répète en permanence, c'est que c'est multifactoriel. Ton état actuel, il est en lien avec, certes, ton vécu, et évidemment que ton vécu, il a un impact, mais il y a ta génétique, il y a ton tempérament, il y a ta personnalité, il y a les ressources que t'as en toi, en fait. Et c'est vrai que les personnes, voilà, résilientes, on se rend compte qu'elles ont une capacité d'adaptabilité et de flexibilité qui est énorme. C'est-à-dire que dans chaque situation, je m'adapte. Je m'adapte et je m'adapte pour vivre au mieux la situation. C'est ça, la résilience, ça. Aussi. C'est trouver des solutions dans des, dans des situations où, a priori, sur le papier, il n'y en a pas beaucoup pour s'en sortir.
Et je crois que vraiment, l'entrepreneuriat, c'est une des capacités qui est tellement essentielle, l'adaptation et la flexibilité. Et finalement, t'as réussi encore à en faire une opportunité dans ta vie actuelle.
Ouais, et ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que je ne me suis pas focalisé sur... pour moi, c'était giga important de réussir cette aventure entrepreneuriale et de la réussir, hein, ça reste toujours un objectif. Mais je ne me suis pas focalisé sur la fin. Je me suis focalisé sur qu'est-ce que je peux faire maintenant. Et ça, je pense que ça fait pas rêver les gens, en fait, de se dire, de focaliser sur le moment. De dire que ouais, tu vas devoir faire une formation, ouais, tu vas devoir découvrir, ouais, tu vas devoir devenir meilleur. Ouais, tu vas devoir te tromper et d'imaginer que ce que tu avais dit au début, bah, ça va pas forcément arriver. Oui, tu vas devoir changer d'avis, tu vas être OK de le fait de changer d'avis. Oui, tu vas devoir affirmer des choses et y croire à fond, et 6 mois plus tard te dire que tu t'es trompé. Ouais, en fait, ça fait pas rêver. ce qui fait rêver, c'est la fin. Et en fait, ouais. ce qui est véritablement, en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant dans ce parcours, c'est que je me suis focalisé sur le côté un peu moins glamour, mais qui apporte finalement le plus de résultats et qui te permet de t'améliorer, en fait.
Mais sur l'instant, en fait.
Ouais.
En fait, je pense que ton parcours, il te force en tant qu'enfant à être dans une réalité déjà qui est hors de l'innocence.
Mmh.
Et on sait que les enfants ont très peu notion de, tu vois, du passé, du futur, et qui sont vraiment, pour le coup, dans un total... instant présent, et voilà. Alors toi, t'avais peut-être plus cette part de côté innocence, et t'étais dans une réalité qui n'est pas celle qu'on s'imagine quand on est forcément, tu vois, enfant dans un cadre familial, etc. Mais du coup,
je pense que t'apprends bien l'anticipation, ouais, quand tu es dans un contexte de maltraitance.
Ouais, mais ça t'a, d'une certaine façon, tu vois, t'as pas de mal aujourd'hui à te dire ok, j'ai des objectifs, etc. Et bien sûr, j'ai une vision à long terme, et c'est hyper important. Ce que je fais présentement n'a pas moins de valeur que ce que j'imagine pour dans 5 ou 10 ans, tu vois.
Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et et je dis une phrase en plus pour renforcer ça, c'est que je crois qu'on l'a déjà dit beaucoup ensemble, ou je l'ai déjà dit, qui était, en fait, je suis sûr de moi maintenant, mais je m'autorise à me tromper.
Ouais.
C'est une phrase que je me dis très souvent, c'est genre, en fait, là maintenant, je suis sûr de ce que je dis, mais si j'étais amené à me tromper, je suis d'accord pour me tromper, et je suis d'accord pour changer d'avis si j'ai suffisamment d'éléments pour dire que je me trompe. Et ça aussi qui est intéressant avec dans l'entrepreneuriat ou de manière générale, c'est qu'avoir des certitudes, c'est bien, mais continuer à avoir des certitudes alors qu'on sait qu'il y a une faille quelque part, c'est aussi potentiellement compliqué, et c'était peut-être une de mes problématiques. Et par exemple, pour donner un exemple, dans l'aviation, il y a quelqu'un que je détestais, je le détestais, il me saoulait, il me cassait les bonbons. Je sais pas si on peut dire des gros mots aussi, oui, mais...
on peut.
On peut. Donc il me cassait les couilles de fou, et j'en parlais des fois avec mes collègues, je lui dis...
De fait.
s'il me chauffe trop, pour de vrai, ça va mal se terminer. Et j'ai beaucoup évoqué, je disais, genre, il me saoule, et à chaque fois, je terminais une phrase en disant, mais par contre, si un jour, j'ai suffisamment d'éléments pour ce que je suis en train de dire là maintenant tout de suite, je me suis trompé, je suis d'accord pour me revenir là-dessus. 2 mois plus tard, cette personne vient avec moi dans l'avion, veut travailler avec moi à l'avant, au chef de cabine, et je me dis, bah écoute, c'est le moment de savoir si tu t'es trompé ou pas. Il voulait bosser avec moi, je dis, ok, on y va. Et en fait, bah, finalement, le fait de m'être laissé l'opportunité de me tromper, m'a laissé l'opportunité de lui donner une opportunité, de changer ma représentation, de discuter avec lui, de me dire, bon, en fait, le mec, il veut tellement discuter avec moi qu'il est relou, en fait. Il était chiant, il voulait tellement discuter avec moi ou parler avec moi ou avoir un contact avec moi qu'il faisait tout pour un peu comme un enfant capter mon attention. Et en fait, quand j'ai compris ça, j'ai fait, bon, il est quand même relou, c'est pas mon pote. Mais
j'ai plus envie de lui casser la gueule.
Mais en fait, j'ai plus envie. Je me suis dit, ah ok, en fait, je comprends mieux. Et le fait justement de se dire, j'ai des certitudes, mais je m'autorise à ne plus avoir certitudes pour grandir.
Ouais, bien sûr.
Je trouve que finalement, c'est une phrase toute simple, mais qui donne l'opportunité de grandir.
Non, mais c'est trop important dans un monde, surtout, où on est noyé, je trouve, d'informations, ouais, et tu vois,
et d'injonctions.
D'injonctions, ouais, ouais. De certitudes sur plein de choses et tout. C'est trop important, je veux dire. Et je trouve que moi, être en contradiction, changer, tu vois, de cap et revenir sur... Enfin, c'est le mouvement, c'est la vie. Ouais. Je veux dire, quelle horreur d'être figé sur un truc et de... Je veux dire, t'as ta base, et puis même ta base, elle évolue, même tes valeurs, elles évoluent. Enfin, je veux dire... Nous, en coaching, on a travaillé les valeurs. Aujourd'hui, le système de valeurs qu'on avait bossé ensemble, il y en a déjà qui ont bougé, et c'est trop important. Ouais.
Mais moi, je trouve que c'est le piège du coaching. Ouais. Enfin, en tout cas, de ce que je repère dans ce qu'on peut amener dans le coaching ou dans le développement personnel en général, c'est les gens qui pensent qu'à un moment donné, t'as fini.
Ouais.
Ça y est, tu t'es développé personnellement. Et du coup, bah, ça y est, c'est fini.
Okay.
Et pour moi, en fait, c'est... Alors attention, je dis pas que c'est tous les coachs et tout ça, pas du tout, mais c'est quelque chose qu'on peut souvent voir en tout cas dans le coaching, c'est ce côté-là, bah ça y est, je me suis développée personnellement, j'ai un peu fini et du coup bah je me suis tellement développée que je me suis un peu éloignée de tout le monde, hein, je me suis un peu pris de la hauteur par rapport à tout le monde et moi je trouve ça terrible parce que du coup pour moi c'est quand tu es dans cette optique-là que tu es enfermée dans tes certitudes et que tu bouges plus. Et c'est quand pour moi tu bouges plus que ben c'est un problème en fait parce que toute ta vie t'évolue, toute ta vie tu remets en... Alors tu peux avoir des certitudes, ouais. C'est important, attention, parce que c'est important d'avoir des certitudes et des bases qui solides, des choses sur lesquelles tu t'appuies, sur lesquelles tu crois qui sont profondément alignées avec toi. Il y a quand même des valeurs profondes qui généralement restent profondes à toi et bougent pas. Mais c'est vrai que moi je pense que quand t'as trop de certitudes et quand tu penses que t'as fini de te développer personnellement, Bah, c'est là où c'est un problème. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais.
Moi, je pense qu'il y a ça. Il y a aussi l'autre pan qui est de. En fait, t'as jamais fini aussi. Et il y a ces deux pans. En fait, il y a le côté de t'as terminé. Alors, j'en connais pas beaucoup des gens qui disent qu'ils ont terminé pour être totalement transparent. Je connais très peu de gens qui me disent moi j'ai terminé le jeu. Par contre, je connais beaucoup de gens qui disent moi je sais commencer parce que j'ai travaillé sur moi et donc j'ai des certitudes. Donc je sais comment ça fonctionne. Ce qui est rigolo, c'est que le monde du dev perso n'est pas le monde. En fait, j'ai l'impression que c'est pas mon monde, en fait. Genre, bizarrement.
Je vois ce que tu veux dire.
J'y suis. Je trouve qu'il y a des outils intéressants. Je me reconnais pas dans ce monde. Un peu comme dans ma formation, pardon. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Alors, j'aime bien les techniques. J'aime bien l'ambiance qu'il peut y avoir en termes de questionnement et intéressant en termes de choses qu'on peut y trouver. Mais par contre, tout le monde qui est autour me fait pas vraiment kiffer. Et moi, je me retrouve pas trop dans ce monde-là. Et je trouve que dans le dev perso, ouais, les certitudes de ma solution, c'est la meilleure. Il faut utiliser ma truc, mon truc. C'est chiant, soyons clairs. Et il y a ceux qui ne s'arrêtent jamais et qui se font avoir par le marketing, qui en mode ça ne s'arrête jamais, en fait.
Mais les injonctions au dev perso, on en parle aussi souvent, tu vois, cette espèce de truc où tu as l'impression que tu peux toujours pousser et qu'en fait, t'es jamais satisfait d'un état dans lequel tu te sens bien. C'est pas non plus ce qu'on prône, tu vois.
C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que pour moi, le meilleur indicateur, c'est toi. C'est-à-dire que tu es ton propre indicateur. Et c'est toi qui décides si là t'es bien ou t'es pas bien. C'est toi qui décides si là il y a des choses à bouger ou pas à bouger. Et en fait, tu peux faire des choses et avoir des comportements qui chez les autres peuvent paraître problématiques, ouais, etc. Mais dans la mesure où toi ça te pose aucun problème, tu vis très bien avec. Et ouais, en fait, c'est complètement ok aussi. C'est-à-dire que
totalement.
Faut pas bouger ce qui n'a pas d'intérêt à être bougé.
Ouais, ce qui fait pas souffrance, c'est clair. Justement, quand on a une activité, tu vois, pro, hyper prenante, et on a parfois du mal à trouver cet équilibre entre la vie perso, le temps pour soi, préserver sa santé mentale, sa santé physique. Toi, comment, dans ta vie de papa, d'entrepreneur, de mari, de pote, comment tu trouves ton équilibre ?
Alors, pour moi, l'équilibre, c'est un concept. C'est un peu comme la religion. Ouais. Chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre. Chacun y trouve ses règles. Chacun revient quand il en a besoin. C'est à peu près ça, en fait. L'équilibre, ça devait être un livre où on devrait prendre du temps dessus et potasser qu'est-ce que ça veut véritablement dire. Pour moi, l'équilibre, il n'existe pas en fonction dans la représentation qu'on s'en fait d'un truc équilibré. Donc déjà, de base, je pense que le mot n'est pas bon. En tout cas, on ne devrait pas forcément devoir utiliser celui-ci. L'équilibre, comment je fais ? En fait, ce que je passe beaucoup de temps à expliquer, c'est que je suis OK avec mes déséquilibres. En fait, on devrait appeler comment gérer son déséquilibre plutôt de comment créer un équilibre.
Une harmonie, on peut peut-être...
Oui, une harmonie.
Oui, parce qu'un équilibre, on l'imagine un peu scolairement avec cette espèce de cercle, tu vois, coupé en quatre en se disant j'ai un quart pour ma vie perso, un quart pour ma vie pro. Mais ce n'est pas du tout la réalité. Alors, non. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, je veux dire, pour moi encore plus. Et oui, complètement, les déséquilibres. Mais les déséquilibres pour qui ? Pour la société, pour ce qu'on attend de toi en tant qu'injonction de père, de mère. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, ce serait pour ton équilibre, pour ton équilibre dans le sens où pour ce qui te convient à toi, comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à te dire j'ai du temps en dehors de ma vie pro, est-ce que ça te suffit, est-ce que toi tu te dis c'est ok de pas avoir non plus besoin de beaucoup de temps.
Tout est une histoire de contexte. À chaque fois, il y a des contextes de lancement, il y a des contextes où c'est un peu plus galère, des contextes où c'est complètement compliqué, il y a des contextes où il faut se renouveler. Et l'équilibre, en tout cas l'équilibre dans lequel j'essaie de chercher, en tout cas dans les endroits où je vais, j'essaie de l'équilibrer par rapport au contexte dans lequel je suis. Il y a des moments, c'est ok de ne pas avoir de potes, en tout cas de passer moins de temps avec ses potes pour justement aller vers l'endroit où tu as véritablement envie d'aller. Et c'est un contexte d'équilibre. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ma femme a quand même tendance à me ramener à un équilibre en disant hey, tu sais que vu que j'adore ce que je fais, je pourrais en faire à outrance. Et je suis quelqu'un, ce que je disais encore hier soir, je lui fais mon plus gros défaut et en même temps ma plus grosse qualité, c'est que quand j'aime, j'y vais à fond. Alors,
t'es passionné.
Je suis un passionné. Comme dirait ma femme, je suis passionné de la passion. Et c'est une de mes caractéristiques. Donc, ce qui veut dire que si j'aime, j'y vais à fond. Ce qui fait que je peux couper court avec énormément de choses, moins voir mes potes. Moins faire la teuf, moins... Et parce que je sais que le truc... De toute façon, tout comportement en excès crée un déséquilibre. Et en étant entrepreneur, t'es obligé d'être dans l'excès à un moment ou à un autre. T'es obligé d'être obsessionnel, t'es obligé d'aller chercher un résultat que personne n'a parce que tu vas faire des choses que personne ne fait. Donc cet équilibre, il est déjà de pour moi en tout cas, c'est d'avoir réussi à créer un déséquilibre qui est accepté par les gens avec qui je vis, qui sont ma femme et mes enfants, accepté par mes amis jusqu'au moment où ils ne l'acceptent plus, où ils me donnent des alarmes en disant hey, tu sais que c'est bien de faire de l'entrepreneuriat, de travailler, d'avoir une entreprise, mais d'avoir des concerts, d'aller discuter, d'aller boire des verres, c'est aussi cool. Genre, oublie pas non plus, de temps en temps, j'ai des potes qui me le font. Mais aujourd'hui, mon équilibre, il est pour de vrai, il est, personne ne le veut en fait, je pense. J'aime tellement ce que je fais que je sors vachement moins. Je fais beaucoup moins de trucs. Par contre, je suis ultra focalisé sur où est-ce que je veux aller avec ce que je fais aujourd'hui, avec mon entreprise, avec les gens avec qui je travaille, parce que pour moi, ça créera l'équilibre de demain. Donc, en fait, la représentation de l'équilibre que j'ai aujourd'hui, elle est dans la création de sens de l'équilibre que je veux demain.
Oui, puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu es ton propre indicateur. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, bah, c'est OK pour toi, ça te convient et tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux. Et donc,
c'est le plus important.
Et donc, bah, t'es OK dans ce qui pourrait paraître déséquilibré chez quelqu'un d'autre.
Ouais.
Pour toi, c'est complètement équilibré, si on peut mettre des guillemets à équilibré du coup. En tout cas, t'es en harmonie avec
d'aujourd'hui. Ça, pour moi, ça me parle énormément. Parce que on a eu cette discussion avec Samuel il y a genre quelques jours. Genre, la réalité de ce que je vis à l'instant T, la façon dont les choses se font, eh ben, c'est ce qui nourrit aussi ma vision de demain qui est complètement différente. Et l'accepter et l'incarner, tu vois, en disant que c'est un investissement, mais comme c'est un investissement de toi et que t'as plein d'attentes autour d'autres personnes et de la façon dont tu dois gérer ta vie, tes temps personnels, etc. Il y a une incompréhension qu'il faut dealer avec l'incompréhension des autres et de ton entourage et même de la société en général. Et alors, quand t'es exposé, je t'en parle pas, mais si c'est OK pour toi, et c'est tellement important, et c'est ce que moi je ravage, le fait de s'écouter, c'est principalement pour ça, parce que parfois tu viens te créer des problèmes, des ruminations, etc., pour des choses qui ne t'appartiennent même pas, c'est-à-dire que toi, c'est OK.
Parce qu'on est tellement habitué à répondre aux attentes des autres, que du coup, des fois, on en vient à plus s'écouter, parce qu'on m'a dit ça, parce qu'on m'a reproché ça, et du coup, je vais essayer de combler l'attente de quelqu'un d'autre, et donc un peu oublier la mienne. Et c'est là d'ailleurs, même généralement, que se créent les déséquilibres
internes.
Pas aux yeux des autres, du coup, ça devient compliqué cette histoire. Si tu réponds trop aux besoins des autres et que tu réponds plus à tes propres besoins, au bout d'un moment, c'est là où ton réservoir est vide.
Et c'est
là où tu te perds, et c'est là où effectivement, là, il peut y avoir un vrai déséquilibre. Et je pense que c'est même le plus gros déséquilibre qu'on peut retrouver qui a un impact au niveau personnel, c'est quand les autres ont plus d'importance. Que toi, et quand tu mets plus d'énergie à répondre aux attentes des autres que véritablement à répondre à tes propres besoins.
Aujourd'hui, tu es papa de deux enfants, merveilleux. Si demain, tes enfants, ils veulent arrêter l'école, être entrepreneur, t'imagines quoi en tant que réaction? Hyper difficile, je te projette dans un contexte qui n'est pas du tout le tien.
Ça va être très simple. S'il y avait eu Nara à côté de moi, ma femme, elle m'aurait regardé avec des gens en mode genre, qu'est-ce qu'il va dire? C'est franchement, pour de vrai, j'ai aucune attente vis-à-vis de l'école. Franchement, soyons clairs, j'étais en échec scolaire, la scolarité, ça a été tellement compliqué. J'ai redoublé, j'étais dans des classes spécialisées pour genre enfants en difficulté, pour de vrai. J'ai aucune attente de l'école. Je passe mon temps à un truc que je répète à mes enfants. Beaucoup, tu peux tout faire. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux à partir du moment où ça t'intéresse. La seule chose avec laquelle tu dois être OK, c'est qu'au début, ça va être compliqué. Ce sera compliqué. Genre, tout ce que tu vas faire sera compliqué au début et ça deviendra de plus en plus facile. Et l'école, c'est pour moi, ça a été très compliqué. Et il a fallu que je me reforme à l'âge adulte et revenir un peu dans un système ou avec des formations pour me rendre compte qu'en fait, c'est pas si dur que ça. C'est juste que je pense que j'étais pas du tout approprié à l'école et j'étais pas du tout adapté. Et puis, en plus, je voulais pas m'adapter. Donc, j'ai aucune attente, franchement, honnêtement, pour l'école et qui veulent devenir entrepreneurs. J'ai même aucune attente pour eux.
Ouais.
Honnêtement, moi, la seule chose que je leur dis, c'est si je peux t'aider, je t'aiderai. Voilà. Genre, si dans mon rôle de papa, si je peux être un vecteur pour faciliter certaines choses, je le ferai. Mais j'ai aucune attente. Genre, ça paraît bizarre, mais
non, mais c'est tant mieux. Comme ça, ils se créent leurs propres attentes. Mais en tout cas, il est possible aussi que dans ton vécu, t'étais dans un contexte de violence, mm-hmm. voilà, tellement compliqué, ouais. Il est possible aussi que t'étais pas disponible pour les apprentissages. Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
Pas du tout, hein.
T'étais pas disponible là pour te dire, ok, ça c'est important et ça va me servir. Enfin, ce qui était important pour toi là, c'était surtout de savoir comment t'allais un peu survivre dans l'environnement qui était le tien. Et je pense que c'était ça qui était important pour toi sur ce moment-là. Et on le remarque. Hein, bon, déjà le système scolaire n'est absolument pas adapté à tous les enfants, soyons clairs. Le système scolaire en l'état actuel n'est on sait comment fonctionnent les apprentissages des enfants, donc n'est pas adapté pour faire des apprentissages. Enfin bon, voilà, laisser des enfants assis sur une chaise toute la journée. On le sait, les enfants apprennent notamment en jouant. Enfin bon, bref, on va pas, c'est pas le sujet. Mais un enfant en plus qui dans un contexte voilà de maltraitance, de violence, c'est pas un enfant dispo pour son cerveau. Il est pas dispo. Il est juste en train d'essayer de savoir comment il va survivre au mieux dans la vie qui mène aujourd'hui. Donc en fait.
Ouais, ça paraît tellement ouais. normal et je pense que toi avec tout ton parcours et tout forcément en tant que papa t'as ce regard là qui est totalement différent et tant mieux. Je pense que si on pouvait un peu moins projeter nos propres échecs entre guillemets, en tout cas attentes sur nos enfants, je pense que ça permettrait de développer des superbes individualités aussi et se dire que c'est pas parce que ce sont nos enfants qui nous appartiennent, mais ça c'est un autre sujet.
Ça leur laisse le champ des possibles, le fait qu'ils aient pas d'attentes en face d'eux. Alors, il y aura les attentes scolaires, bien évidemment, mais de l'école envers eux. Et puis, il y a moins ce truc-là de je dois donner du résultat pour avoir la validation et la reconnaissance de mon père, ma mère, etc. Et ça, on sait que ça joue aussi beaucoup dans la construction de soi.
C'est vrai.
Voilà.
Même quand on chemine et qu'on est très éveillé sur tous ces sujets, tout ça, on a quand même des défis pro et perso. Et moi, je veux savoir quels sont les tiens pour l'année à venir. C'est quoi tes...
C'est quoi mes défis pro et perso?
Tes défis, tu appelles ça comme tu veux, de résolution, objectif, intention, tu vois.
Alors déjà, sur l'éveil, je me considère pas comme quelqu'un très éveillé. Enfin, honnêtement, je me vois pas comme quelqu'un qui en sait plus ou qui c'est pas, je sais que c'est pas du tout ce que tu es en train de dire, hein, d'accord?
Non, être éveillé, c'est juste que tu incarnes ce qui est, tu vois, ce qui a l'air important pour toi et ce qui est...
OK, d'accord.
Okay. C'est comme ça que je l'entends, moi.
Mais j'ai quand même j'ai un beau syndrome de l'imposteur que j'ai pendant des années, j'ai dit c'est de la merde ce truc, ça fait chier. Et en fait, pour de vrai, je l'aime bien. Et je suis content de l'avoir et je le cultive et je vais le rechercher de temps en temps. En fait, je vais leur dire, tiens, là, t'es sûr de toi là? Ok, on va voir si t'es vraiment sûr. Mets-toi un peu en danger, on va voir si le syndrome de l'imposteur il réapparaît ou pas. Et c'est sur cet aspect là, je pense que ce syndrome de l'imposteur pour constamment aller chercher cette action, ce potentiel revendiqué qui va me donner un feedback en disant, bah, en fait, tu t'es trompé.
La curiosité, en fait.
Ouais. Donc, mon challenge, c'est de rester là-dessus à titre personnel. Vraiment, ce truc que tout le monde voit comme un truc ultra compliqué. Moi, je trouve que c'est une preuve que t'es sain d'esprit. D'avoir le syndrome de l'imposteur, c'est tu remets en cause quelque chose et bon, malheureusement il y a la dérive, tout excès a une dérive, de pas passer à l'action derrière fait que grandir, mais moi ce serait de le conserver, parce qu'en fait plus t'avances, plus les gens ont des résultats, plus tu te dis en fait c'est comme si je détenais un truc, tu vois, alors que non, je détiens absolument rien. Conserver ça à titre pro, faire de High Value Entrepreneur HVE un truc cool dans le milieu entrepreneurial, un véritable écosystème entrepreneurial que je trouve qu'il n'y a pas forcément en France. Il y a un domaine pour les startups, il y a un truc pour les mondes de la crypto, il y a un truc pour le truc des marketeurs, mais un écosystème entrepreneurial décomplexé où on te dit pas, parce que moi la chose que je trouve giga intéressante, en tout cas l'endroit où je veux aller aujourd'hui, et je m'autorise à changer d'avis si ce podcast s'écoute dans quelques années, c'est d'être incohérent dans notre communication. On nous rend cohérent parce qu'en fait si je prône qu'il n'y a aucune technique ou aucune formule magique, je peux pas dire que j'ai moi une formule et que je connais quelque chose. Et j'ai envie de se dire que dans le milieu entrepreneurial, oui, il y a des choses qui fonctionnent, qui s'appelle discuter avec les gens. Je pense que c'est la seule chose qui fonctionne, c'est discuter avec les gens. Si tu loupes cette étape, tu ne peux absolument rien faire. Discuter avec les gens, essayer de les comprendre. Ce serait peut-être la seule et unique chose sur laquelle la formule magique qu'on pourrait donner, c'est celle-ci. Mais de créer un véritable écosystème qui est approprié et qui est spécifique aux entrepreneurs créer un énorme écosystème entrepreneurial.
Ça fait des beaux objectifs. Non, c'est vrai.
De belles projections.
On va essayer.
Ma dernière question. C'est une petite question un peu rétrospective, mais si tu t'adressais au Roger d'il y a 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Qu'est-ce que je dirais à Roger d'il y a 15 ans ? Donc il a une quinzaine d'années, il a un peu plus d'une quinzaine d'années. Je me rajeunis. T'inquiète, ça va bien se passer.
Tu fais une petite tape dans le dos.
Je lui dirais gros câlin en disant t'inquiète, genre tu vois pas encore mais ça va être cool.
Ouais.
Et j'aurais envie de lui donner aucun conseil parce que il pourrait peut-être être meilleur que le mois d'aujourd'hui. Donc
intéressant. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir. C'était
Roger,
trop cool
d'avoir.
Merci Roger.
Participer à cette
témoignage
discussion.
Inspirant.
Ouais. Et puis à très bientôt dans un prochain épisode.
À bientôt.
N'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute.
À bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.